Canalem, on aime l'été.
Mercredi 15 août, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça m'est pas moins chaude nécessairement. Emmanuel Robitaille avec vous en compagnie de...
François Baruel.
Aujourd'hui à l'émission, on parle d'intelligence artificielle. On va également recevoir Locke Cory, coordonnateur du regroupement québécois du parrainage civique. On parle également avec Frédéric Tremblay, président de la Fondation québécoise des troubles obsessifs compulsifs, qui vient nous parler, oui, de la nouvelle campagne de l'Alliance canadienne de la santé mentale et de la maladie mentale. François, tu abordes les bienfaits de la sieste, ce qui va faire plaisir à beaucoup de gens.
Mais surtout en vacances.
Je vous reviens également avec les journées mondiales et internationales de la semaine et on va terminer avec une chronique musicale de la musique d'été, mais on a des surprises pour cela. Bienvenue à Aime l'été. On vient d'entendre Daddy's Car et avant d'aller plus loin, je vais vérifier avec toi François et même Jean-Sébastien à la régie, comment vous avez trouvé cette chanson-là?
Moi, je trouve ça très bien, c'est une chanson qui s'écoute parfaitement et qui ressemble beaucoup aux Beatles et Beach Boys.
Effectivement, on l'entend.
Moi, je trouve ça intéressant à quel point il y a vraiment de tout dans cette chanson-là. Il y a des harmonies, il y a même l'effet à l'envers à la fin.
À la fin, il y a un reverse mode.
Tous les trucs
mode,
des Beatles.
Oui, c'est intriguant comme pièce, je veux dire ça.
Ben, effectivement, et c'est pas n'importe quelle... Bon, artiste, entre guillemets, qui chante cette chanson-là, qui est à la source de cette pièce, en fait. On ne sait pas si on peut qualifier la source de cette chanson-là comme nécessairement un artiste, mais c'est le programme.
Hein? Ça le deviendra peut-être bien.
Ça deviendra peut-être un artiste dans les années à venir. On ne parle même pas de décennies. Je pense qu'on peut y aller dans un très court, à très court terme. Ouais. C'est le programme Flow Machines qui a été développé dans les laboratoires de recherche de Sony. Plus précisément, c'est le Sony Computer Science Laboratories Paris qui, en collaboration avec le Pierre N. Marie Curie University, sous la direction de François Pachet, qui se sont déroulées les recherches dont ce résultat-là a émergé. Finalement, Flow Machine, c'est une machine, on s'en doute, qui calcule les algorithmes des chansons. Ça les analyse pour trouver des nouvelles façons de créer. C'est littéralement de l'intelligence artificielle qui fait de la musique dans les laboratoires de Sony. Et bon, elle enregistre un incommensurable base de données musicales pour en exploiter des combinaisons de styles en créant des interactions qui optimisent les genres et les techniques qui sont habituellement utilisées. Bref, on essaye d'être encore meilleur que jamais, comme d'habitude dans tout le temps. Finalement, c'est ce qu'on essaye de faire. Et cette machine-là, qui relève de l'intelligence artificielle, travaille main dans la main avec des musiciens pour composer la musique du futur. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une des deux pièces officiellement issues de l'intelligence artificielle et mise sur un album en 2017 également, disponible sur toute bonne plateforme numérique. Cette chanson-là, Daddy's Car, se veut inspiré, et tu l'as bien trouvé, François, du son Les Beatles, bien qu'élaboré par la Flow Machine. Elle a été arrangée et produite par Benoît Carré, qui a également signé les paroles. Il reste que cette chanson-là a été composée par un ordinateur. Et j'ai dit deux pièces musicales qui étaient officiellement sorties comme œuvre de l'intelligence artificielle. On écoute un extrait de Mr. Shadow, l'autre pièce qui, cette fois, a été composée à la base des influences des auteurs, compositeurs, interprètes américains comme Irving Berlin, Duke Ellington, George Gershwin et Cole Porter. C'est encore Benoît Carré qui a bien sûr...
C'était dans un blender, tout ça.
Exactement. Ben, effectivement, on fait juste la commande. On passe la commande. On dit, OK, ça pogne ce temps-ci. Donc, on va essayer de mélanger tous ces styles-là et on va trouver une chanson qui optimise le tout. Comme j'allais le nommer, Benoît Carré est encore là pour finaliser les arrangements et produire la chanson et écrire les paroles. Mais on écoute ce que Flow Machines a réussi à composer littéralement. Ça, c'est Mr. Shadow qui, à mon humble avis personnel, hein, la musique, c'est subjectif, c'est une question de goût, est vraiment moins réussi.
Non, mais nettement moins réussi, moins typique. Si on avait voulu faire quelque chose de... De toute façon, le but n'était pas de faire quelque chose de typique, mais c'était un...
Effectivement. On dirait un peu de Aaron Neville qui chante. Hein. C'est vraiment... Il y a vraiment une espèce de en tout cas, une oscillation dans la voix qui fait beaucoup plus robotique.
Mais c'est pas vraiment l'intelligence artificielle encore.
C'est ce que tu nommais, en fait, la calcul de l'algorithme.
Oui, il y a un calcul de l'algorithme, mais il y a énormément d'informations auparavant qu'il a fallu entrer dans la machine pour pouvoir en tirer quelque chose.
Et qui n'a pas été généré par la machine elle-même.
Non.
Exactement. Voilà. Mais ce n'est pas seulement le domaine musical, en tout cas, qui intéresse l'intelligence artificielle, parce qu'il va, ça, c'est un début, là, on se le dit, là, et qui éveille l'artiste en lui. Cette entité, cette chose, c'est qui, lui, on ne sait pas. Mais n'en demeure pas moins que, c'est vrai, n'en demeure pas moins que l'intelligence artificielle Google, en plus de s'auto-enseigner à marcher, écrit maintenant de la poésie. Ça provient de DeepMind, qui est le leader mondial en recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais également sur son application dans le vrai monde. Après avoir établi une éthique d'utilisation à sa propre technologie en 2015, Google a nourri son ordinateur de plus de 11 000 livres non publiés en 2016. Et ça, je me suis amusée à le calculer, ça c'est 30 livres par jour, soit un peu plus d'un livre à l'heure sans interruption. C'est gigantesque, là, tu sais, il n'y a personne qui peut lire à une vitesse aussi élevée, en tout cas... Personne qui a un fonctionnement dit normatif du cerveau. Là. Et je crois, bon, le nommer à chaque semaine, que chaque bonne découverte est due à un accident. Il est ressorti de ce petit exercice d'enregistrer des livres non publiés et de lecture que DeepMind s'est mis à écrire de la poésie. En fait, on remarque une grande amélioration de l'habileté de la machine à générer des phrases qui se tiennent ensemble et qui font du sens, ce qui peut être le premier pas, en fait, vers de plus grandes capacités communicationnelles avec les humains. L'idée des interactions qui fonctionnent ensemble étant, oui, à la base d'une conversation. En ayant enregistré toutes ces phrases-là, il s'est mis à générer lui-même des choses qui se tiennent, qui font du sens et qui sont jolies à l'oreille. C'est intéressant quand même. Mais c'était pas ça le but. C'était pas ça le but, mais il en est ressorti un poète. Et de ça. Et effectivement, on fait des pas de géant avec l'intelligence artificielle. On l'a fait jouer au Go, au jeu de Go, l'intelligence artificielle. Est-ce que, les garçons, vous savez ce que c'est, le jeu de Go?
Oui. Oui, oui. C'est un jeu de stratégie, en fait. C'est un jeu de stratégie qui est beaucoup plus compliqué même que les échecs.
Et c'est ça.
Alors là, d'après ce que je me souviens, tu te souviens probablement, le championnat du monde des échecs, il y avait fallu mettre pour pouvoir battre le champion du monde.
Le master,
il a fallu mettre, je ne sais combien d'ordinateurs en série, de manière à pouvoir avoir tous les calculs possibles. Là, il s'agissait de faire des calculs avec toutes les données qu'on lui avait rentrées. Là, le jeu de Go, on lui a donné les règles. Et là, il a imaginé. L'ordinateur a imaginé. Ça, c'est le deep learning, ça.
Exactement. Et ce qu'on a compris, en fait, c'est que le jeu de Go, pour ceux qui le savent pas, c'est comme un mélange d'échecs, tu l'as dit, ça. Et un peu de risque également. C'est-à-dire qu'il faut conquérir des territoires. Par contre, il y a tellement de prévisions à l'avance que l'intuition se met dans la partie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y aller aussi à l'avance dans notre façon de prévoir nos gestes. Donc, il y a quelque chose de plus grand que soi qui entre en ligne de compte et qui finalement crée quelque chose qui fonctionne ou pas en fonction de notre capacité à bien se connecter à nous-mêmes. Et le AlphaGo, soit l'intelligence artificielle qu'on a fait jouer au jeu de Go, a remporté 4-1 contre des professionnels, ce qui sous-tend l'idée que l'intuition commence à se développer également, ou du moins qu'elle est dotée d'une forme de capacité intuitive. Cette machine-là est là, on s'en vient dans des facultés qui sont... Moi, en tout cas, je ne m'attendais vraiment pas à ça, là, qu'une intelligence artificielle puisse avoir des notion intuitive. En tout cas, ça me dépasse.
C'est peut-être une forme d'intelligence, l'intuition.
Comment?
C'est peut-être justement une forme d'intelligence, l'intuition.
Ben oui.
Tout simplement.
Ben effectivement. Et en 2017, DeepMind a créé un avatar qui lui a appris à marcher, à courir et à sauter sans l'aide d'un humain. Finalement, il observait ce qu'il a lui-même créé pour apprendre de lui-même. Genre, il s'est auto-créé un mentor.
Ouais.
Pour qu'il lui montre comment marcher, courir. Écoute, c'est capoté, là.
C'est impressionnant, ça.
Et il s'est regardé faire. Il a appris de lui-même. Donc, imaginons ce qu'il peut apprendre maintenant de nous et de l'environnement. C'est sans fin.
Alors, ce qu'il va nous apprendre, peut-être.
Est-ce qu'il va, j'en suis persuadée, nous apprendre dans un, encore une fois, très court laps de temps.
We'll be right back.
sarebbe le ali, sarebbe il suo volare verso questo sole grandioso, o anche soltanto nel cielo. Oh, un amico che carro per me.
Bonjour Monsieur Le Cory.
Oui, bonjour.
Nous écoutions tout à l'heure...
Vous l'avez écouté?
Oui, on écoutait.
Mais est-ce que vous avez regardé le clip aussi?
Oui, bien sûr. Oui, alors aussi, c'est un clip, justement, c'est ce que je disais pendant qu'on l'écoutait, c'est un clip qu'on se rappelle très très bien et très facilement, parce que et c'est un clip qui marche donc. Parce qu'en écoutant cette musique, moi j'ai vu le clip, je l'ai revu de nouveau. Donc je pense que c'est un bon clip.
Oui, c'est gentil, on a travaillé fort pour ça en tout cas.
Oui, bah oui, c'est ça.
Donc le clip a été fait à Drummondville, chez oui. Axar, qui est une galerie d'art à Drummondville. Et ça a réuni près de 100 personnes provenant de 4 organismes de parrainage civique au Québec.
Oui, c'est ça. On ressent cette entente et puis cette fraternité au milieu de ce clip.
Ouais, on a essayé de montrer le jumelage des binômes là, entre un bénévole et une personne vivant avec une déficience intellectuelle ou un problème de santé mentale ou un handicap physique. Il y avait un peu toutes nos clientèles entre guillemets qui étaient représentées au sein du clip, et donc sur une chanson qui est assez évocatrice au niveau d'Itique, qui s'appelle O un amico. Je parle pas italien, mais je crois que ça veut dire j'ai un ami.
C'est ouais. ce que j'allais et... dire.
On est brillant au parrainage civique. Bon, on a vraiment travaillé sur tout.
Effectivement. Et Le Cory, il faut dire que vous êtes coordonnateur du regroupement québécois du parrainage civique, et cette chanson-là vient de sortir parce que on veut connaître mieux votre mission, on veut connaître encore mieux vos organismes. C'est 17 organismes qui font la promotion du parrainage civique, si on ne se trompe pas.
Il y en a même 21 organismes de parrainage civique au Québec, mais en fait, il y en a 4 qui ne sont pas membres chez nous. On les aime quand même s'ils ne sont pas membres chez nous. Donc, mais on est 17 au sein du regroupement, oui.
Et actuellement... Oui. Ce besoin-là de vous faire connaître davantage, et par la musique en plus, parce que c'est un magnifique intérim, il vient de où?
Nous, comme pas mal d'organismes communautaires à travers le Québec, on est en demande de bénévoles. Donc il y a à peu près un peu plus de 1000 jumelages actifs à travers le Québec, et il y a également par contre 800 filleuls en attente. Donc 800 personnes
800
en attente,
personnes qui n'ont pas de parrain ou de marraine et qui en auraient besoin d'un.
Qui en auraient besoin pour les inclure un peu plus au sein de notre société, tout simplement en partageant l'univers du bénévole par ses activités, sorties, fréquentations. Ça permet en fait aux filleuls de découvrir et de s'insérer au sein de la société à travers l'aide d'une personne. Parce que nous, ce qu'on privilégie au sein du parrainage civique, c'est cette relation de personne à personne. On pense qu'elle est beaucoup plus bénéfique que toutes ces activités faites en groupe, ouais, etc. Mais ce binôme...
Et le rôle du parrain, justement, quel est-il dans le cas où il y aurait un bénévole qui se montrerait, qu'est-ce qu'il doit faire?
Lui, il le sait pas forcément, le bénévole, quand il arrive, mais c'est vraiment un agent de transformation sociale. Il permet, entre guillemets, aux filleuls de s'épanouir, de développer son pouvoir d'agir par des petites choses vraiment très très simples. Là, j'ai un exemple dernièrement qui me vient en tête, mais c'était donc un parrain qui me disait, avant, mon filleul, par exemple, au restaurant, il regardait pas la serveuse dans les yeux, il attendait que je commande pour lui. Là, petit à petit, au fil des rencontres, au fil du temps, bon, ça a peut-être pris 30 ans, je sais pas.
Jamais trop tard.
C'est déjà beaucoup pour eux, mais ces petites avancées-là, pour lui, maintenant, il peut commander seul au restaurant.
Mais ça finit par être un peu du mimétisme, comme un enfant va imiter ses parents, ils finissent par vous regarder aller.
On évite d'infantiliser chez nous les filleuls, mais oui, on peut dire ça comme ça.
Mais comme n'importe qui va imiter un mentor, on apprend avec vous, là.
Oui, c'est ça, on apprend petit à petit, mais c'est-à-dire que pour le parrain, au tout début, évidemment, en tant que bénévole, il a envie de dire oui, je vais changer la vie de ses filleuls, etc. Mais au final, c'est une relation vraiment de réciprocité, mm-hmm, où vraiment le bénévole en ressort également grandi. Donc au niveau, donc il veut au tout début, il veut tout faire. Alors il est vraiment très 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 motivé, etc., à faire énormément de choses, etc. Mais en fait, ça vient tout naturellement. C'est pour ça qu'on dit j'ai un ami. Enfin, on met en avant l'amitié chez nous. Mais en fait, c'est finalement une relation amicale qui se crée au fur et à mesure de la relation de jumelage. Et puis ça peut être prendre une marche, prendre un café, sortir au quai, tout simplement si le bénévole n'a pas le temps, chatter éventuellement avec lui sur Facebook, lui parler rapidement au téléphone.
Mais il y a quand même des exigences minimum pour le bénévole. Parce qu'en fait, auprès, il y a des exigences minimum auprès du bénévole. Parce qu'on peut être... En fait, c'est un ami, mais dans quelle proportion est-ce que c'est un ami? Parce que c'est
On demande au niveau des critères principaux. Donc, il faut qu'il ait du temps.
Du temps.
Ouais. Donc, c'est-à-dire, ça dépend les organismes, chacun a ses critères, mais c'est minimum entre 1h30 à 3h par mois de son temps. Donc, essayer de le voir.
C'est pas beaucoup, en fait.
C'est le minimum que l'on demande. Nous, et c'est un engagement quand même régulier que l'on demande sur le long terme. Donc, ça va pas être, oui, il va le voir pendant 2 mois et pendant 4 autres mois, il va plus le revoir. Mm-hmm. Il dit pas, ouais, mais j'ai fait 20 heures là, de bénévolat
c'est
ce mois-ci.
C'est la régularité,
mois prochain,
en fait. Ouais.
Non, on demande vraiment à ce qu'il y ait une relation qui se développe de manière continue pour le bénévole. Et évidemment, l'un des critères, on demande à ce que le bénévole n'ait pas de casier judiciaire, mais ça, c'est le béaba.
Oui, j'ai pensé, en plus, quand François a posé la question, j'ai dit, ça doit être une question aussi judiciaire, là. Je veux dire, mais ça, c'est la base de toute chose.
Ouais, on s'évite les personnes qu'on a un passif avec la justice.
Ma question est la suivante, parce que vous avez parlé justement de long terme et d'être constant. On peut s'attendre à une relation qui perdure combien de temps environ? Combien de temps on peut être jumelé avec quelqu'un?
Eh bien, nos plus vieux jumelages ont une trentaine d'années.
Hey!
Ouais, 32 ans exactement. Ils sont 3 au Québec, puisque malheureusement, il y a un jumelage, le quatrième, la marraine est malheureusement décédée, mais qui s'était impliqué tout le long. Et au final, même s'il y a des suivis qui se font de la part de nos agents de jumelage à travers le Québec, mais ce sont des relations qui roulent, entre guillemets, toutes seules. Mais on effectue toujours un suivi qui est peut-être moins régulier que les...
Ce sont des relations d'amitié ou des relations de paternité ou de fraternité?
Nous, c'est vraiment c'est une relation d'amitié, de relation d'égal à égal. Il n'y a pas de paternité, il n'y a pas de...
C'est très important, ça.
Qui est le meilleur là-dedans, qui va chapeauter l'autre, etc. Ouais. Je sais que nos termes de parrain, marraine...
C'est pas mentor.
Prêter à confusion. Ouais. Mais nous, c'est vraiment réciprocité. Il n'y a pas de relation, évidemment, également d'argent sur les activités. Chacun paye, par exemple, sa place au cinéma, etc. Il n'y a pas d'échange d'argent. C'est vraiment... on va faire une activité comme tu fais avec tes amis.
C'est ça. Ouais.
Et donc.
Mais la vie sociale de des gens qui ont une déficience intellectuelle, ça ressemble à quoi? Parce que il peut y avoir de l'isolement, mais à quelque part, avoir une déficience intellectuelle, c'est pas tout le temps synonyme d'isolement, me semble.
Non. Bah, évidemment, il y a différents degrés dans la déficience intellectuelle. Mais donc, certains donc, vont être en résidence, certains ont des emplois, d'autres pas, donc qui vont chez nos collègues d'autres organismes communautaires où il y a des centres de jour, où ils ont des activités pour eux, mais, et pas pour dénigrer le travail de mes collègues, mais donc ils sont confinés souvent entre eux et avec une ou deux intervenants ou intervenantes, mais nous, on leur permet, entre guillemets, de sortir avec des personnes qui sortent un peu de leur réseau, que ce soit de leur famille ou des amis qui se font dans ces centres de jour. Donc nous, ça leur permet de découvrir autre chose, et des choses sur lesquelles ils ne pensent pas forcément à faire, ou je vous dis des choses comme ça, mais genre aller prendre une bière dans un bar, on en voit rarement des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, alors que ce sont des consommateurs comme nous, l'alcool aussi. Bon, on évite tout ce qui est produit, alcool, drogue, etc., avec le filleul, mais il est possible d'aller prendre une bière quand même.
Sachez qu'en parrainage civique, mesdames et messieurs, vous pouvez aller boire de la bière ou pas,
on est le lieu de la débauche pour
si jamais, parce que
Mais
c'est très intéressant. Quand on vous écoute parler, on voit à quel point vous avez une vision qui est normalisante et qui est rassurante, en fait, d'avoir des yeux comme les vôtres. Ça permet justement de garder ça très simple, très vrai, très humain et très inclusif et juste normal. Si on veut devenir bénévole, on s'inscrit où?
On peut nous rejoindre sur la plateforme, donc notre site internet parrainagecivique.com. On peut m'appeler et j'ai un numéro gratuit. Et je l'ai sous les yeux parce qu'il est un peu long.
Ah, vas-y.
1-877 parrain, donc P-A-2-R-A-I-N, qui correspond à des chiffres. Donc 1-877-727-7246. Vous pouvez nous contacter également sur Facebook du RQPC, qui veut dire Regroupement québécois du parrainage civique, ou vous tapez tout simplement sur la barre de recherche Google parrainage civique, et vous allez voir tous les organismes de parrainage civique à proximité de chez vous.
Donc RQPC sur Facebook, on peut se rendre directement sur votre site internet, le parrainagecivique.com, ou encore composer le numéro de téléphone, le 1-877 parrain. Monsieur Corrie, merci infiniment d'être venu nous partager votre mission, et encore une fois, bravo pour cette musique et cette mission que vous portez à bout de bras.
Merci, et allez nous faire des likes, partager la vidéo, et il y a plein de choses à gagner.
D'accord.
Okay. Merci.
Merci beaucoup à vous, au revoir.
Vous écoutez Aime l'été.
Toujours en cette édition de la mi-août pile poil, mi-août, miaou, non, tu sais, c'est toi qui m'avais dit ça, la journée internationale des chats était la mi-août, non, non, c'est Jean-Sébastien à la régie qui m'avait fait cette blague-là la semaine dernière. On est le 15 août, mercredi, et à venir à l'émission, François, tu nous parles des bienfaits de la sieste pour ces journées grises qui sont à l'horaire pour la prochaine semaine, il y en aura quelques-unes, et 5 visages de la maladie mentale, on en parle avec Frédéric Tremblay.
kisses goodbye. Tell the truth, you never wanted me.
Retour 18 ans en arrière, en 2000, avec cette pièce de l'album Play de Moby, pièce qui s'intitule Porcelaine, pièce qui a joué quand même pas mal en 2000 et après aussi.
Et qui était sur la soundtrack, c'est ce que je me posais comme question, du film La Plage avec Leonardo DiCaprio et Laetitia Casta, qui était un film absolument marquant du début des années 2000 également.
Exact. Et moi, c'est ce genre de musique-là qui me donne envie juste de relaxer, de prendre ça de prendre ça cool, comme on dit.
Mais c'est vrai, et le piano de Moby nous apporte toujours, comme si on était un petit peu dans l'espace, comme s'il y avait un peu aussi une pluie qui tombe sur un... Tu sais, il y a comme un aspect un peu étoilé, mais peut-être que je capote, mais vraiment, là, ça me fait penser à ça, François, tu nous parles de relaxation et
justement,
de sieste sur une plage.
Relaxation et de repos, voilà. Pourquoi pas sur la plage?
Ben, idéalement. On se le souhaite tous.
Peut-être à l'ombre quand même.
Oui, parce qu'on se rappelle qu'il ne faut pas rester là comme un bacon au soleil.
Non. Non, en effet, c'est vrai, la sieste n'est pas... Est-ce qu'elle est réservée aux enfants? En fait, non. Même si tu es animatrice de radio, même si tu es conductrice, conducteur de camion, si on est employé chez Provigo ou cadre supérieur... Eh bien, en fait, on a intérêt à faire la sieste. On a malgré tout intérêt à faire la sieste.
Ah, c'est plus que OK, c'est comme conseillé.
Bien sûr, c'est conseillé, oui. On se dit toujours, mais non, j'aurai jamais le temps, c'est pas possible, je ne peux pas m'arrêter entre midi et deux ou après le dîner, c'est pas possible. Et en fait, ça vous ferait le plus grand bien. À tout le monde. Vous auriez tous le grand bonheur de voir qu'au bout de 10 minutes, 20 minutes de sieste, vous vous sentez infiniment mieux. Et pour quelle raison est-ce que ça serait intéressant de faire la sieste pour vous? Parce qu'en fait, en général, on dort, au lieu de dormir de 7 à 8 heures, on dort de 6 à 7 heures. Déjà, on a un déficit de sommeil. À la mi-journée, on commence à avoir une certaine fatigue. Et notamment, enfin, vous avez remarqué que vous aviez une fringale. Et déjà, vous avez une fatigue au moment du dîner.
Et souvent, il faut le dire que les fringales sont beaucoup plus dues à une fatigue sous-jacente où notre corps demande du sucre, donc du gaz, pour fonctionner plus qu'une réelle faim.
La fringale est due en effet à un métabolisme du sucre qui pourrait être modifié au départ. Mais de toute façon, il y a quand même une certaine fatigue à partir du moment où on se lève tôt le matin, au moment du dîner, à la mi-journée, on se fatigue. Ça permet d'améliorer la créativité et l'humeur d'ailleurs, bien sûr. Ça permet d'améliorer le moral, ça donne du moral parce qu'en fait, on se sent beaucoup mieux. Et puis enfin, une condition, c'est très importante, c'est faut pas se dire, mais non, c'est pour les très vieux, c'est pour les trop vieux, c'est ceux qui s'endorment devant la télé. Non, non, pas du tout. Ou c'est pour les enfants. Non plus, c'est pas vrai du tout.
Mais ça se fait pas n'importe comment, une sieste.
Non, ça se fait pas n'importe
comment.
On
le sait, mais là, on a un docteur avec nous qui va nous
dire. Voilà, il faut dire précisément. Voilà,
précisément. Ou ne pas faire.
On n'est pas obligé de se mettre dans son lit en pyjama ou comme on veut pour dormir. Hein?
C'est
pas la peine.
C'est souvent ça qui nous arrête.
Non,
on est comme, mais là, on n'est pas à bonne place.
Pas du tout. On peut se mettre dans sa voiture, on renverse le siège, on se met dans sa voiture tranquillement, on s'installe. Et, ou bien dans, chez soi, dans son fauteuil à bascule. Ça peut être n'importe où, dans son bureau. On se met en arrière et on ferme les yeux. Et ensuite, on cherche à dormir uniquement 10 à 20 minutes. Il ne faut pas dormir plus de 30 minutes, maximum, parce qu'après, on attaque le sommeil profond. Et si on attaque le sommeil profond, on rentre dans une phase de sommeil qui est une phase de la nuit. Et dans ce cas-là, on va se réveiller, on va sortir de son sommeil profond très mal.
C'est ça qui fait la différence.
C'est ça la différence, il ne faut pas dormir plus de 20 minutes.
Parce qu'il y a des fois où je ne me rappelle vraiment pas de mon nom là, quand je me réveille. Ben voilà, et il y a d'autres fois,
dure,
je suis rafraîchie pleinement.
Voilà. Et ça dure longtemps.
Hein? C'est vrai. Ben, je pense que tu t'en remets 2 à 3 heures des fois,
ben voilà.
Sincèrement.
Oui, oui, bien sûr. Ben, ça, c'est utile quand on a des décalages horaires et qu'il faut...
Oui.
Donc, on peut se permettre d'avoir...
On ne se rappelle pas ton nom, anyways,
si
avant
on a le temps,
la
ben, voilà, exactement. Donc, autant faire une sieste. Au moins, après, on a une chance de le retrouver. Parce que sinon, c'est vrai que quand on se réveille dans d'une sieste de 1 heure, on a l'impression de sortir d'un jeu vidéo. C'est vraiment ça, hein, on est arraché et on est vraiment toujours dans son monde.
Un peu hypnotisé, on a
sensation.
Un peu le cerveau
ouais,
ramolli, c'est vrai. Donc, ne pas dépasser 30 minutes parce qu'on arrive dans des stades de sommeil qui ne correspondent pas du tout à l'état à lequel on veut arriver. Là.
Exactement.
Parce que des stades de sommeil, c'est des cycles de 90 minutes et on
c'est
en
ça.
Fait plusieurs alors qu'on
voilà.
n'a pas le temps de le faire
voilà.
en tout. Là.
C'est ça, exactement.
C'est ça. Ouais. OK. Ouais. Donc, on s'installe confortablement, on respecte un 20 à 30 minutes pour les raisons qu'on a nommées. Ensuite?
Ouais. Ensuite, il faut tout simplement fermer les yeux. Il faut laisser son esprit vagabonder. Il faut, un peu comme dans la méditation, c'est-à-dire regarder passer les pensées, etc. Enfin, ça, c'est la chose qu'il faut éviter de faire, c'est de se concentrer sur des questions qui sont importantes. Et il faut essayer aussi de réfléchir à ses membres, à son poids du corps. Et ça, c'est un exercice d'endormissement général. C'est de ressentir ses bras, ses jambes, les plus lourdes possibles, de les ressentir dans leur poids et leur chaleur. Et ça, déjà, quand on commence à se concentrer sur ce fait, on commence déjà à rentrer dans la zone du sommeil. Ensuite, on peut faire des mouvements, on peut ajouter des mouvements des yeux, des mouvements de rotation des yeux, sous les paupières fermées, et ensuite regarder en haut, très très haut, le plus haut possible, en forçant un peu. Et là, on s'aperçoit que ça provoque le sommeil. Voilà, ça ne marche pas à tous les coups, bien sûr.
Très intéressant.
Mais ça provoque le sommeil. Ça, c'est un fait un peu avéré. Pas tout à fait comme le soleil fait éternuer, mais enfin, c'est presque ça.
C'est vrai. Parce que, par rapport au mouvement des yeux, c'est super intéressant. Ce que je savais, ce qu'on avait étudié, c'est cette idée-là où lire nous amène dans un sommeil parce que les mouvements des yeux, quand on lit, ressemble au mouvement des yeux pendant le sommeil paradoxal. Vous savez, le sommeil quand on dort,
oui,
quand on rêve,
ça.
Pardon. Donc, le REM, le Rapid Eye Movement,
ouais.
en anglais, ces yeux qui brassent. Tu sais, quand on regarde notre chum, notre blonde, notre enfant qui dorme, puis il y a comme quelque chose qui se passe en arrière des paupières qui va vite, là. C'est ça, mais c'est la même chose quand on lit, on va passer nos yeux, et là, ça nous amène, notre cerveau fait comme une connexion, mais ça, je ne savais pas. De renverser les yeux en arrière, je vais définitivement l'essayer.
Ben voilà, il faut l'essayer. C'est
ben
ça,
vraiment.
Alors, les bienfaits de la sieste, hein, c'est en fait, les animaux font presque tous la sieste. On a remarqué les chats, ils en font pas mal. Hein. Mais il y a aussi les chiens, enfin, tous les animaux font la sieste, sauf l'humain. Et probablement parce qu'en fait, on en a besoin d'un point de vue social, il faut rester à l'écoute, attentif, performant, etc.
Depuis quand on dort pour être bon? Enfin. Entendez-vous mon sarcasme? Et Jean-Sébastien nous quitte sur cette sieste. Il s'en va dormir.
Oui, oui, tout le monde qui nous écoutait, restez éveillés, c'est pas le moment de la sieste. Attendez
mais
un instant.
Mais c'est bien de pratiquer, par exemple. C'est bien de le pratiquer pendant que tu me parles. Moi, j'ai fermé mes yeux.
Ouais. Mais c'est bien de... Alors, la NASA a même étudié la chose, c'est que 40 minutes de sieste qui correspondait à 26 minutes de sommeil chez des aviateurs... permettait d'améliorer de 34% leur vigilance par rapport aux pilotes qui restaient éveillés. ce qui est quand même énorme.
Mm-hmm.
Et bon, dans des métiers à risque, comme les, par exemple chirurgiens, infirmières, les chauffeurs de camions, les chauffeurs tout court, c'est quand même très très précieux. En plus, ça permet d'améliorer la rapidité cérébrale et la capacité de concentration. Donc, on devient beaucoup plus efficace. Et ça fait baisser la tension artérielle de quelques points. Enfin, on s'est aperçu que les risques de défaillance cardiaque, enfin d'infarctus ou de troubles du rythme, baissaient si on faisait régulièrement une sieste de 20-30 minutes.
Et parce que ça, c'est la durée de la sieste, mais il y a aussi des moments clés, soit à l'après-midi. Mmh. Puis même, tu l'as nommé aussi tantôt, tu sais, moi, je me rappelle tout le temps de mes oncles qui, une fois qu'ils avaient mangé, allaient se coucher.
Ben oui.
Il y a cette raison. Il y a quand même un moment dans la journée, après les repas, on est vraiment plus fatigué, on est plus à même d'aller faire des siestes.
Voilà, plus c'est logique, puisqu'en fait, il y a une énergie qui est demandée par le tube digestif, qui est demandée, qu'on peut lui fournir en se mettant un peu au repos et en faisant une sieste. C'est une très bonne chose. Et puis ensuite, le cerveau prend le relais une fois que la digestion a été initiée. Et puis ensuite, on peut se réveiller, on va très bien. Mais c'est une chose qui est importante, c'est qu'il ne faut pas oublier quand même que la Chine et le Japon l'ont inscrite dans les droits des citoyens, les droits des citoyens au travail.
Le droit à la sieste ?
Le droit à la sieste. Le droit à la sieste. C'est quand même pas pour rien, à mon avis. Alors, ce n'est pas recommandé pour tout le monde. Si on est insomniaque, si on a du mal à s'endormir, il vaut mieux pas faire de sieste. Il vaut mieux se fatiguer un peu, parce qu'on s'endormira probablement plus facilement le soir. Si on fait une sieste et qu'on est insomniaque, c'est-à-dire difficulté à l'endormissement, à ce moment-là, on va avoir encore plus de difficultés à s'endormir. Par contre, si on se réveille la nuit, on peut s'endormir, on peut faire une sieste à compenser le manque de sommeil qui échoue.
Donc, conclusion, dormons.
Oui.
Paisiblement.
Dormons paisiblement.
Pas trop longtemps.
Pas trop longtemps, non. 10-20 minutes, mais ça peut se faire tous les jours.
On peut le faire tout habillé ou pas.
Tout habillé ou pas, n'importe où, dans votre bureau, dans votre voiture, peut-être pas dans le métro, mais dans votre... n'importe où. C'est facile, en fait.
Et on peut se donner
simplement
le droit.
Il faut se donner le droit et le temps.
Merci, Dr Baruel.
Moi, on s'en va où tu veux. Mais laisse-moi t'arracher de ceux qui s'inventent des dieux. Si je t'en mets dans le bois, l'endroit où t'es le mieux. Puis après de bonnes bouffées d'air, tu me diras ce que je peux faire. Parce que là, tu t'enfonces et j'ai pas de réponse. Tu fabules, tu délires et je sais pas quoi dire. Tu trembles, tu maigris, t'as le teint pâle et gris. Tu changes et je m'ennuie de mon meilleur ami. Moi je fais quoi, je fais quoi? J'attends de devenir folle pour voir ce que tu vois. Toi qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu fous? On dirait que tu décolles et que tu deviens fou. Face cachée de ton visage, comme les traits effacés sous une belle image. Je lis dans tes yeux comme dans un livre ouvert. Et même si tu le refermes, je peux lire au travers. Et là je le vois, tu t'enfonces à chercher des réponses. Tu fabules, tu délires, plus rien ne te fait rire. Tu mens, tu oublies, t'endors plus la nuit. Tu bois et quoi encore? Perdre le nord. Moi je fais quoi, je fais quoi? J'attends de devenir folle pour voir ce que tu vois. Toi qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu fous? On dirait que tu décolles et que tu deviens fou. Ouh, 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 ouh.
La pièce porte le titre Fou. C'était Andréane Amalette qui nous parlait de cette chanson avec un des tabous de la société, la santé mentale.
Et qui était en relation également avec, je crois, la semaine de la prévention de la santé mentale.
Je ne sais plus si c'était la semaine ou la journée.
Et, mais Andréane est impliquée...
Absolument, depuis 2 ans au moins.
Beaucoup, depuis 2 ans au moins. Et c'est pas pour rien qu'on a mis cette chanson-là, parce qu'on va continuer d'en parler de la santé mentale. Du moins, ici, on en prend la parole. Et on a avec nous au téléphone, au bout du fil, Frédéric Tremblay, président de la Fondation québécoise des troubles obsessionnels compulsifs. Bonjour, M. Tremblay.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, très bien.
Merci d'avoir accepté cette invitation-là pour parler d'une campagne à grand déploiement, on va se le dire. C'est une campagne lancée par l'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale. Elle a été lancée récemment, oui. Et ça s'appelle 5 visages de la santé mentale.
Bon. Oui.
Quel est le but précis de cette campagne-là?
Ben, c'est une campagne qui existe déjà depuis quelques années. Chaque année, les 5 visages
changent, oui.
dans tout le Canada. C'est qu'on est 2 Québécois. Cette année, il y a 2 Québécois, puis il y a 3 personnes du Canada, de d'autres provinces du Canada. Donc, il y a toujours 5 visages qui sont choisis. Puis la campagne, c'est sûr que oui, il y a l'organisme que vous avez dit, là, un organisme fédéral là, qui coordonne la campagne. Mais il y a aussi l'appui très fort de Belle Cause pour la Cause qui aide à avoir beaucoup de visibilité là, pour la campagne. Le but de la campagne, c'est vraiment de faire de la prévention, de la déstigmatisation, d'aider les gens à les diriger vers les bonnes ressources, montrer qu'il y a de l'espoir, montrer que le rétablissement est possible, que le mieux-être est possible. Puis vraiment, je pense que c'est ça, en gros, là, les principaux objectifs de la campagne. C'est pour ça que c'est une campagne médiatique, mais il y a aussi une partie de la campagne que moi je suis un des 5 visages cette année. Puis il y a une partie de la campagne aussi qu'on fait un peu du lobbying auprès des autorités politiques là, pour mieux faire valoir là, l'importance des soins précoces en santé mentale. Mm. Puis le financement des soins de santé mentale qui est souvent malheureusement le parent pauvre du financement des soins de santé. Souvent la santé physique passe. Ça prend beaucoup du budget de santé mentale.
Quels sont les besoins pour les traitements de santé mentale et combien y a-t-il de malades mentaux, si on peut dire,
en pourcentage? J'ai pas les chiffres exacts parce que moi je demeure un bénévole dans le sens que moi je m'occupe surtout de la Fondation québécoise pour le trouble obsessionnel compulsif. Donc c'est le TOC, le trouble obsessionnel compulsif, c'est un trouble de santé mentale, ça fait qu'il y en a plusieurs autres. Là. Okay. Moi, je suis bénévole pour la Fondation québécoise de ce trouble-là. Puis j'ai souffert de ce trouble-là durant une vingtaine d'années.
Parlez-nous-en. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu de ce trouble-là? Ouais. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est, là.
Oui. Ben, écoutez, c'est sûr que c'est un trouble qui est un peu moins connu que la dépression ou que le burn-out ou que même la schizophrénie. Mais c'est un trouble qui appartient un peu à la famille des troubles anxieux. Et c'est un trouble qui se manifeste beaucoup là, lors de l'adolescence ou au début de l'âge adulte, qui touche autant les hommes que les femmes. On dit que ça touche environ 2,5% de la population. Et puis c'est un trouble qui touche autant, là, peu importe la classe sociale ou peu importe les enfants, ça touche toutes sortes de gens. C'est un trouble aussi qui n'est pas nouveau, là, qui existe. Moi, j'ai lu beaucoup là-dessus, c'est sûr, avec le temps. Puis c'est un trouble qui existait même dans... On relève dans l'Antiquité, dans l'histoire, là, on relève des personnages célèbres, il y avait des TOC. Là, on en relève plusieurs. C'est un trouble qui se traite de mieux en mieux. La bonne nouvelle, c'est ça, parce que maintenant, la médication est beaucoup plus avancée.
Mais au quotidien, ce trouble-là?
Au quotidien, c'est très large. Hein, c'est très large. C'est sûr
variable.
Que je peux expliquer peut-être le trouble, la manifestation qui est la plus facile à comprendre, parce que à travers le trouble, il y a différents thèmes qui sont possibles pour ce trouble-là. Je vais prendre le thème de la contamination, parce qu'il est facile à comprendre.
Oui.
Moi, j'avais pas le thème de la contamination, j'avais d'autres thèmes, mais ils sont plus difficiles à expliquer. Mais le trouble, donc, de prendre le toc de lavage de main, on va dire. Ouais. Les gens, dans le fond, qui ont ce trouble-là, ont eu des obsessions par rapport à la propreté, par rapport à la contamination. Donc, ils se sentent toujours qu'ils sont contaminés par quelque chose. Donc, un exemple, ils vont toucher le volant de leur voiture, ils vont toucher un mur au centre d'achat, ils vont toucher. Aussitôt qu'ils touchent quelque chose un peu d'externe ou que leurs vêtements touchent quelque chose de qui n'est pas dans leur maison à eux, ils vont penser qu'ils sont contaminés, puis qu'ils vont. Puis là, c'est là que ça se déclenche. Ils vont penser qu'ils sont contaminés. Là, il y a beaucoup d'anxiété qui se déclenche, puis là, ils vont avoir une peur atroce de même d'en mourir, de la contamination, ou de la transmettre à d'autres.
Mais là, il y a des risques.
Un exemple, si quelqu'un touche à... Si moi, j'ai ce toc-là, puis j'ai touché au mur, après ça, si je touche à quelqu'un, aussi dans son entourage immédiat, ça se peut juste transmettre la contamination. Ça fait que là, c'est un cercle vicieux. Puis là, les gens, comme vous dites, il y a des rituels. Il y a des rituels qui vont s'installer parce que pour soulager l'anxiété immense qui est envahie. Donc là, ils vont faire des rituels qui vont être de se laver les mains, de jeter leurs vêtements à la poubelle.
Longtemps?
Oui, ça va coûter très cher, tu sais, des fois, puis ou de laver leurs vêtements de façon complètement compulsive. Puis quand on dit lavage de main aussi, lavage de main ou les douches, les douches vont durer 3 heures. Lavage de main, ça va être encore là, plus très fréquemment, jusqu'à temps que la peau craque, puis que les mains se mettent à saigner, puis bon, ils vont prendre des produits de plus en plus forts, ils vont ça peut aller, là je mets un peu tout le... Je vois du plus...
Non, mais c'est des choses qu'on sait pas et qui sont surprenantes. Et au-delà de la compulsion, qui est le geste que vous avez nommé, soit de prendre une douche ou etc., ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tant et aussi longtemps que ce geste-là n'a pas été fait, l'obsession demeure et l'anxiété peut atteindre des niveaux absolument... C'est la seule façon d'avoir un soulagement intérieur et il peut être très... très courte durée, en plus, ce soulagement-là.
Vous avez raison en grande partie, mais je veux juste donner un peu d'espoir aux gens. Dans le sens que, oui, la façon naturelle de se soulager, quand on a le TOC, c'est de faire des compulsions, comme on dit, de prendre la douche, de laver les mains. Mais c'est pas la seule façon, dans le sens que, oui, cette façon-là va soulager de façon très temporaire. Malheureusement, ça installe le cercle vicieux. Donc, à moyen long terme, c'est une très mauvaise stratégie parce que plus on fait les compulsions, plus on enracine le problème. Fait que, oui, il y a des solutions. Il y a des solutions, c'est-à-dire que, il y a plusieurs thérapies qui existent. La thérapie la plus connue, c'est la thérapie cognitive comportementale, qui se donne par des psychologues spécialisés là-dedans. C'est pas tous les psychologues qui l'offrent, par contre. Mais en TCC, en thérapie comportementale, on apprend à ne pas faire les compulsions. On apprend à identifier les obsessions, les accepter la souffrance que ça génère au début. Puis après ça, à résister, à ne pas faire les compulsions. Puis là, on réentraîne le cerveau. C'est sûr que là, je vous dis, ça prend du temps, c'est pas en 24 heures. Là. Mais je veux dire, on réentraîne le cerveau à se défaire de ce cercle vicieux-là. Puis écoutez, moi, je l'ai vécu. Là, durant 20 ans, je l'ai eu de façon, pour le premier 10 ans, assez plutôt modéré, deuxième 10 ans, très sévère. Puis maintenant, ça fait 2 ans que j'ai pas de symptômes du tout. Ça va extrêmement bien, puis je suis vraiment très, très, très content.
Mais c'est très encourageant, et c'est le genre d'aide, justement, que des campagnes qui battent leur plein présentement sont en train de mettre en lumière et qu'on veut aider pour offrir ces services-là. Et vous avez posé une question tout à l'heure, combien de gens sont aux prises avec un problème de santé mentale? C'est le tiers des gens au Canada qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale.
Ouais, ça va jusqu'au tiers.
D'où l'intérêt.
Quelques années, on parlait d'un sur 5, mais là, ça augmente, malheureusement, ça va en augmentant.
Et rapidement, en terminant, comment on peut contribuer à la campagne de l'ACMMSM, on va dire l'acrostiche, là, comme citoyen pour appuyer à la démarche actuellement? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Ben, je vous dirais de plusieurs façons. Premièrement, c'est sûr que vous pouvez contribuer au plan personnel en étant très à l'affût de vos collègues, de vos amis ou de
vous-même. De le faire au quotidien,
de vos proches, c'est ça. Que quand vous voyez que la personne a certaines problématiques, c'est de l'encourager à en parler, ne pas la juger, l'écouter avec compassion, puis essayer de la diriger vers les bonnes ressources, s'informer. Donc, il y a tout ce dossier-là d'accompagnement, puis de ne pas être gêné d'aller voir quelqu'un au bureau. Des fois, on voit quelqu'un qui fait le pont, on dit « Ah, peut-être qu'il va mal me recevoir. » Mais des fois, je suis quand même que les gens, des fois, ils ont besoin justement de se faire... Il faut approcher de la bonne façon, mais je veux dire, je pense que d'être sensible à ça, puis aussi quand il y a des gens qui font des blagues, des mauvaises blagues sur la santé mentale, qui ont des préjugés, de corriger le tir aussi, parce que des gens, dans le fond, c'est de la méconnaissance. Là.
De se lever et de prendre part et de prendre position et de décourager ces comportements-là.
C'est ça, exactement. Puis aussi, c'est sûr que quand on va plus loin, ça peut aller jusqu'à faire du bénévolat pour un organisme en santé mentale ou faire un don pour un organisme en santé mentale. Il y en a plein, dans toute la province. Dont des exemples comme Phobie Zéro, comme Jeunesse en tête, il y en a des tonnes. Mm-hmm. Fait que moi, je pense que c'est ça. Il faut être vigilant, puis s'impliquer personnellement, puis se lever, dans le fond, pour
c'est pas les moyens qui manquent, on va se le dire. Et si jamais on veut en savoir plus, on peut visiter le www.camimh.ca. Frédéric Tremblay, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette belle cause.
Ben, merci beaucoup. Merci à vous.
Bonne journée.
Vous écoutez Aime l'été.
16h tapant, Emmanuel Robitaille avec vous, toujours accompagné de François Baruel. On est toujours demi-heure et à venir à l'émission, les journées mondiales et internationales de la semaine avec un paquet d'anecdotes, comme d'habitude, et également de la musique d'été.
Un jour je ferai mon grand cerf-volant, un côté rouge, un côté blanc, un côté tendre. Un jour je ferai mon grand cerf-volant, j'y ferai monter vos 100 000 enfants, ils vont m'entendre. Je les vois venir du soleil levant. Puis j'attellerai les chevaux du vent. Un cheval rouge, un cheval blanc, un cheval puis j'attellerai les chevaux du vent, puis nous irons voir tous les océans, s'ils sont en vie, si les océans sont toujours vivants. Par-dessus les bois, par-dessus les champs, un oiseau rouge, un oiseau blanc, un oiseau lyre. Par-dessus les bois, par-dessus les champs, qui nous mènera chez le mal méchant pour le détruire. Bombe de silence et couteau d'argent. Nous mettrons le mal à feu et à sang. Un soleil rouge, un soleil blanc, un soleil sombre. Nous mettrons le mal à feu et à sang. Un nuage monte, un autre descend. Un jour sans ombre, puis nous raserons la ville en passant. Quand nous reviendrons le cœur triomphant, un côté rouge, un côté blanc, un côté homme. Quand nous reviendrons le cœur triomphant, alors vous direz ce sont nos enfants. Quel est cet homme qui les a menés loin de leurs parents? Je remonterai sur mon cerf-volant, un matin rouge, un matin blanc. Je remonterai sur mon cerf-volant, un matin rouge, un matin blanc, un matin blême. Je remonterai sur mon cerf-volant et vous laisserez vos 100 000 enfants chargés de même pour jeter les dés dans la main du temps, pour jeter les dés dans la main du temps, pour jeter les dés dans la main du temps.
Eh bien, nous avons entendu Le Grand Cerf-Volant par Fred Pellerin. Et maintenant, Emmanuel, tu vas nous parler des journées mondiales et internationales de la semaine, n'est-ce pas?
Comme d'habitude, parce que j'adore les journées mondiales et internationales de la semaine. Mais Les Grands Cerfs-Volants, by the way, c'est une chanson aussi, il faut le dire quand même que c'est Gilles Vigneault qui a fait cette chanson-là.
Ah,
mais,
oui.
Mais Fred, tu sais, on l'affectionne particulièrement. Donc, on a choisi la voix de Fred Pellerin pour le rendement.
Et à propos de cerf-volant.
Mais avant de vous parler de cerf-volant, mais là, c'est sûr qu'on se doute où on va s'en aller, mais avant d'aller au niveau international et mondial, avant de se promener sur notre belle planète bleue, On va aller sur le plan national et on va saluer cette journée de la fête nationale des Acadiens et des Acadiennes, aujourd'hui même le 15 août. Et on avait reçu The Kilted Chef la semaine dernière, ou la semaine, il y a deux semaines, qui est Alain Bossé, qui nous avait parlé d'ailleurs de cette journée-là. On a parlé également à quelques Acadiens au courant de l'été, en fait, dans la chronique Au Canada qui a lieu le vendredi, parce que Canalem est diffusé pan-canadien, il faut le dire. Et il y a plusieurs festivals qui battent leur plein actuellement. Si vous êtes intéressé, si vous pensiez aller en vacances dans ce coin-là, sachez que c'est la fête en Acadie et que vous ne manquerez pas d'activités estivales et festives dans les prochains jours. Maintenant, au travers de notre merveilleuse planète, il se passe plusieurs journées mondiales et international, et on commence demain, qui est la journée mondiale du cerf-volant. Tu l'as si bien nommé, c'était une entrée de jeu tellement pas subtile, tellement évidente. C'est la 5e édition cette année de cette manifestation mondiale pour ne pas oublier comment faire voler un cerf-volant avec comme slogan « Libre comme le vent », avec son site bien à lui, que vous pouvez consulter d'ailleurs, c'est le www.journeemondialeducerfvolant.com. Sur la page, c'est un récit d'amour impliquant un cerf-volant qui nous accueille et qui nous indique l'importance de ce jouet intemporel aux utilisations multiples. Cette journée-là veut partager l'art de la fabrication et de la manipulation du cerf-volant avec le plus grand nombre, parce que on se le cachera pas, là. Moi, je sais pas comment faire un cerf-volant et je crois, en tout cas, je n'ai pas de souvenir d'avoir fait voler un cerf-volant. C'est pas ce qui est le plus in actuellement là, comme jouet. Là.
Non, mais ça s'est fait quand même beaucoup.
Ben oui.
Si, oui.
Mais c'est ça, faut pas l'oublier comme un paquet d'autres jouets intemporels.
Pourtant, c'est un tel souvenir justement de fabriquer son cerf-volant avec quatre bouts de bois.
Ben, je l'ai fait, là, mais j'étais comme au primaire. Là, tu sais,
ben voilà.
Ça fait très longtemps.
Ben voilà.
Donc, si jamais on veut pas perdre cette tradition-là, on peut profiter du 16 août pour le faire. Et on se demande tous, je vous entends, et me pose la question aussi. Qu'est-ce que le mot « cerf » fait dans le mot « cerf-volant » ?
Ah, justement, qu'est-ce que c'est ?
Parce que...
Alors, tu as la réponse ?
Ben non, mais ça provient pas du cervidé, bien connu au
non,
Québec,
bien sûr,
parce qu'on
non.
ne retrouve pas de cerf dans le ciel.
Déjà?
Ça vient plutôt de cerf-volant, S-E-R-P, une forme ancienne du mot « serpent ». OK, les serpents ne volent pas non plus, pas plus que les cerfs. Mais au moins, la forme...
Ben, notamment en Chine, puisqu'ils ont énormément de dragons volants, justement, avec une longue queue
exact. Ben
qui représente le serpent.
Ben, c'est ça. Mmh. Donc, eux, vois-tu, ils ont peut-être resté plus connectés avec, avec la racine de ça. Mais d'ailleurs, son origine est chinoise, au cerf-volant. En fait... la forme qu'il prend quand il vole, oui, c'est une chose. Son origine reste l'objet de débats. C'est pas clair, mais sur certaines réserves, il nous provient de Chine et date aux alentours du 4e siècle avant Jésus-Christ. Un peu moins populaire avec le temps et bien intéressant d'y réserver une plage horaire dans notre année pour ne pas le perdre de vue. La semaine dernière, François et à la maison, on a parlé de ma journée mondiale internationale préférée, soit la journée du chat. Moi, maman féline. je salue mes chats, d'ailleurs. Qui était le 8 août dernier, précisément. Voici maintenant qu'après-demain, le 17 août, mesdames et messieurs, ceci n'est pas une blague, c'est la journée internationale du chat noir.
Si justice lui est rendue, il porte tellement malheur, paraît-il.
Et voilà. Là. Mais c'est grave, là. C'est une initiative de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. C'est un peu le pendant de la SPA britannique, finalement, là. Grosso modo. Et qui milite pour l'adoption des chats noirs gardés dans les refuges animaliers en cette journée-là, très précise. Et pour une raison également très précise, elle est consacrée à réhabiliter les chats noirs et à tenter de mettre de l'avant leur adoption, considérant qu'une plus grande proportion de chats de cette couleur sombre et épeurante, et tu l'as nommé, qui porte malheur, entre guillemets, ou du moins c'est ce qu'on a voulu nous faire croire avec le temps et qui est rendu bien imprégné dans nos esprits, fait l'objet de beaucoup plus de discrimination due à ces superstitions-là. Sincèrement, si t'es un chat noir, t'as plus de chances d'être abandonné, fui, craint, et c'est un réel problème. Les chats noirs sont sincèrement plus longtemps dans les refuges et les centres d'adoption.
Sérieusement.
Les familles en veulent moins. Et plus triste encore, les chats noirs sont même davantage victimes de violence à leur égard. On est plus sadique envers les chats noirs qu'envers des chats de toute autre couleur. Donc, pour redonner ses lettres de noblesse à ce félin, sommes toutes considérées comme sacrées dans l'Égypte ancienne, on va se le dire. Le 17 août, ça nous rappelle que l'habit ne fait pas le moine et qu'on ne doit pas juger un livre par sa couverture.
Je crois qu'on devrait aussi réhabiliter les échelles.
On devrait réhabiliter les humains, en fait. Pour le dire de même, on devrait réhabiliter les échelles et les vendredis 13 et les miroirs qui cassent.
Voilà.
Et... Mais moi, je vous le dis, hein, qu'il y a quand même un miroir qui a cassé chez moi il y a 3 ans et ça a été la pire année de ma vie. Sincèrement, ça n'est... c'est peut-être un addon, peut-être pas.
C'est peut-être parce que tu l'as vu et que tu as voulu le voir comme ça.
Et
que
j'ai
tu as
fini par le créer,
ben, voilà.
Comme dans la matrice. Et...
Mais là, c'est pas si pire si ça a juste été 1 an. D'habitude, c'est 7 ans de malchance.
Non, j'ai minimisé, là, mais c'était 3. En fait, ça a été vraiment 3 ans. Mais c'est pas grave. 19 août maintenant, la journée mondiale de la photographie. Mais attention, cette journée-là, elle est différente et complémentaire au 29 avril, qui, elle, est la journée mondiale de la photographie au sténopé, et celle du 12 avril, journée mondiale de la photographie argentique. Le 19 août a bel et bien sa place à travers ses styles photographiques précis et spécialisés, en célébrant la photographie dans son ensemble, et on se remémore son histoire, et c'est là que je me rends compte que je ne connais absolument rien à la photographie, parce que ces styles-là, je ne me dis absolument rien. Toi, je ne sais pas, François, si tu connais... Ou à la maison.
On en connaît quelques... Oui, quelques...
Je suis une néophyte complète et totale.
Une néophyte avec les plaques qu'on retrouve dans les vieilles malles, etc. On retrouve des choses comme ça, oui. Mais, mais c'est la photo argentique qui va disparaître, oui. En fait, c'est ça. Hein.
C'est vrai?
Oh, ça va probablement disparaître. Parce que même les photographes de mode, même les photographes les plus pointus, utilisent des appareils photographiques... des appareils photographiques modernes.
Moi, je suis sûre qu'il restera toujours des...
Numériques.
Des profonds amateurs, amoureux de ces types de photographies anciennes qui vont rester quand même.
Espérons-le, parce que c'est vrai que... Et puis, je pense que tu l'as fait aussi. Tu as certainement tiré des photos. Tu les as développées toi-même.
Ah non, j'ai jamais développé moi-même
mais
mes
ça,
photos.
C'est un grand plaisir de créer ces photos.
Mais ça doit.
De le faire soi-même, d'obtenir le résultat
J'aimerais
qu'on cherche.
Ça. Moi, j'adore la photographie, ça. En fait. Ouais. Mais je suis néophyte, mais je prends des bonnes photos. Ça, je me le donne.
Ah, ça, c'est déjà un... Hein?
Et je mélange le mot acronyme et acrostiche aussi. Mais
aussi,
ça, c'est un autre
c'est bien, ça. Pourquoi pas? Ça fait du nouveau mot.
C'est un Nicéphore Niépce, oui. Qu'on voit la première photographie vue de sa fenêtre et réalisée en 1829. Et après sa mort en 1933, Louis Daguerre a perfectionné le principe et il est maintenant capable de raccourcir le temps de pause à quelques minutes seulement. Fait que c'était vraiment long, là. Fallait rester là sans bouger trop longtemps.
Ce qui explique pourquoi les photos de l'époque, quand on fait photographier une ville, il n'y avait personne. Parce qu'on photographiait pendant 10 minutes la scène de rue et les gens passaient, donc ils n'avaient pas le temps d'imprimer la plaque. C'est pour ça qu'il n'y a personne dans les rues.
Oh! Hey, on apprend tellement des choses.
C'est drôle,
je suis un
hein?
peu ému, hein?
C'est drôle.
Ben...
C'est drôle parce qu'en fait, ça grouillait comme maintenant.
Mais ça n'avait pas le temps d'être capté parce que le mouvement ne s'imprégnait pas sur la pellicule suffisamment profondément comparativement à tout ce qui était immobile. C'est vraiment intéressant.
Ouais.
Je suis, mon Dieu, ma foi, je pense que je vais appeler tout le monde que je connais pour leur dire ça juste parce que des fois, c'est fun de voir. Hey, savais-tu que... Et on se laisse sur le 19 août, qui est la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Et on se tourne vers l'ONU pour la naissance de cette journée mondiale-là, qui souligne bien évidemment le dévouement quotidien des travailleurs humanitaires qui aident des millions de personnes à travers le monde. Cette journée est l'occasion de leur rendre hommage, puisque pour tendre la main à son prochain, ces travailleurs-là font face à des dangers et à l'adversité plus souvent qu'autrement. La date du 19 août, quant à elle, a été choisie en référence à l'attentat, du 19 août 2003 contre le siège des Nations Unies à Bagdad, en Irak, où 22 personnes y ont trouvé la mort. Cette année, on continue d'attirer l'attention sur les millions de civils touchés par les conflits armés chaque jour et on double les efforts pour assurer leur protection. Sous la campagne « Pas une cible », on rappelle que les civils visés par les conflits mondiaux ne sont pas des cibles et qu'ils doivent être dispensés à tout prix et rapidement des grands dommages desquels ils sont victimes actuellement. Pour suivre les événements de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, les mots-clics pas une cible et Share Humanity sont à utiliser sur les réseaux sociaux et à suivre, bien sûr, pour cette magnifique cause qui est l'aide humanitaire. C'était les Journées mondiales, internationales et la fête nationale de l'Acadie de cette semaine. Avec la Macarena, je pense que cette chanson-là est comme le top 1 des 50 dernières années de la musique estivale. Et Daniel Lachance pouvait pas être avec nous cette semaine. Donc là, on a Christiane Campagna ici en studio avec nous.
Oui,
salut,
bonjour.
Christiane, ma co-animatrice du vendredi. Christiane, on t'a dit pourquoi tu ferais pas la chronique? Puis là, t'as comme...
moi, je me suis dit pourquoi j'inviterais pas Mathieu Charlebois à la faire. Alors, je vous présente Mathieu Charlebois.
Bonjour.
Et Mathieu Charlebois est en studio!
Ouais! C'est comme des poupées russes, cette chronique-là.
Oui,
là, je suis une chronique dans une chronique dans une chronique.
Oui, absolument. Et Mathieu, pour ceux qui ne le connaissent pas, est chroniqueur satirique, auteur humoristique.
Ouais, auteur, blogueur, chroniqueur, magazine d'actualité, Radio-Canada, des affaires de même. Là.
Voilà. Et aujourd'hui, il se penche sur la saga. Vraiment, vous allez voir que représente la chanson La Lambada.
Ouais. Oui, parce que c'est bien au-delà d'une petite chanson de 3 minutes, Mathieu.
Il y a beaucoup, beaucoup
bien.
De choses dedans et j'ai passé ma soirée d'hier à tomber dans des trous de Wikipédia, d'ouvrir une page, puis là, de cliquer sur des liens. Puis là, soudainement, une demi-heure plus tard, j'en sais pas plus sur La Lambada, mais je sais tout sur un groupe folklorique bolivien. Et d'abord, mise en situation, on est en 1989, c'est l'été, il fait chaud, mais chaud normal, là. Pas comme en 2018, à l'époque, on se souciait plus du push-push dans les cheveux que de l'exhaust de nos autos. Donc, il fait chaud, c'est l'été, et en 89, la Lambada joue en boucle à la radio au moins 5 fois par jour, en plus de jouer dans la tête de tout le monde le reste du temps. Parce que la Lambada, c'est contagieux comme la petite vérole ou l'envie de manger du poulet frit. Hein, j'ai juste besoin de dire poulet frit, tout le monde a envie de manger. J'ai juste besoin de faire.
On se rappelle que personne n'a mangé parce qu'on était en nombre depuis midi. Et là, si on parle de poulet frit à 1h20, c'est
bon,
super.
Ben, c'est comme la Lambada. Tout le monde va l'avoir dans la tête pour les journées à venir. Clairement. Et j'en m'excuse. Et la Lambada qui nous intéresse ici, c'est une chanson du groupe Kaoma. Et là, vous allez comprendre pourquoi je dis celle qui nous intéresse ici. Parce que, comme tu l'as dit, c'est toute une histoire, cette affaire-là. Une histoire qui commence pas en 89, mais bien en 81 avec le groupe bolivien Los Jarcas. Et d'ailleurs, mon espagnol est inexistant. Mon portugais est encore pire, alors je m'excuse pour tous les mots que je vais massacrer durant ma chronique.
Tous les auditeurs portugais, on est désolés.
Donc, en 81, avec le groupe bolivien Los Jarcas, le groupe est formé par des frères en 1965. C'est un groupe de musique traditionnelle qui existe encore aujourd'hui, 53 ans plus tard, et ce sont les fils de ces frères-là qui tiennent encore le groupe vivant. Mais entre 1965 et 2018, il y a donc l'année 81 où ils enregistrent une chanson intitulée « Lorando, c'est fou ».
On a des airs de famille ici.
Ah, ça dit un petit quelque chose. Et Lorando s'est foué. Alors, c'est... je vous avais dit que mon espagnol était inexistant.
Il s'améliore.
Oui, déjà, c'est que quelqu'un me dit comment le dire, je sais comment le dire.
J'en ai pas beaucoup plus, ça, je m'en étais pas rendu compte.
Donc ça, c'est la première Lambada.
Oui, un peu la Lambada d'origine, si on veut. Hein. Lorando s'est foué est construite autour d'une mélodie folklorique des Andes, et c'est la mélodie. Hein. Mais on passe pas directement de Los Jarcas à Kaoma. Il y a beaucoup de détours entre ça. Entre 1981 et 1989, il y a eu au moins 17 versions de cette chanson-là par différents groupes sud-américains. Et ça, c'est juste ce qui a été recensé sur la page Wikipédia.
C'est ce qu'on sait, là. C'est
Et les gens qui reprennent la chanson la reprennent généralement avec un peu plus d'entrain et moins de drama que là, ce Jarcas, parce qu'eux ont décidé d'en faire une version beaucoup plus « Oh, ça fait mal! » Et les gens qui ont repris la chanson ont plus découvert le côté dansant de ça, comme par exemple le groupe Harmonia 10 en 1984.
C'est vrai qu'on est moins dans notre souffrance intérieure. Voilà. On est revenu un petit peu dans notre joie.
On se dandinait un petit peu plus sur nos chaises.
Déjà.
Ouais, c'est moins souffrant, comme tu disais, à part pour le petit synthétiseur qui, lui,
pas nécessairement. Il souffre un peu, lui.
Et donc, il y a une vingtaine de versions de cette chanson-là qui existent avant 1989, mais celle qu'il faut retenir, c'est celle de la chanteuse brésilienne Marcia Ferreira. Hein, comme elle est brésilienne, la chanson passe de l'espagnol au portugais et devient, je m'excuse encore une fois, « Corando se foi ».
Non, ça vient vraiment coller sur ce
ben
qu'on
voilà.
connaît.
On est beaucoup plus proche de celles qu'on connaît. D'abord, il y a les paroles qui sont les mêmes que celles qu'on fait semblant de connaître à chaque fois que la chanson joue. Et il y a aussi l'accordéon qui est venu prendre la place de la flûte de pain et des synthés cheapo. C'est dur à croire qu'on vient du Québec, mais oui, l'accordéon, ça peut être super sensuel. Et donc, en 1988, cette chanson-là est un super gros hit au Brésil. Et deux producteurs français qui sont de passage au Brésil l'entendent, flairent la bonne affaire et font enregistrer la chanson par le groupe Kaoma.
Hein? Ils sont, c'est qui? Ils sont d'où? C'est qui?
Kaoma, c'est des vrais musiciens. C'est pas des nobody dans leur pays respectifs. Ce sont des vrais musiciens qui viennent un peu partout. Il y a un Antillais de la Martinique, il y en a un de la Guadeloupe, il y a un Toulousain qui vient de Toulouse en France, un Sénégalais et une chanteuse brésilienne. Et ils forment le groupe Kaoma. Et pour leur version de Lorando se foi, ou non, c'est la version brésilienne, donc Corando se foi. Kaoma et les deux producteurs français s'inspirent de la version portugaise de Marcia Ferreira qu'on vient d'entendre. Et là, je dis s'inspire dans le sens de ils repiquent les arrangements pratiquement note pour note.
Genre, ouais, ils plagient.
S'inspirent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour éviter que les animateurs de radio fassent comme moi, c'est-à-dire des fous d'eux-mêmes à chaque fois qu'ils prononcent le nom de la chanson, le titre est changé pour La Lambada. Mais en fait, la lambada, c'est le type de danse qui va avec cette musique-là.
C'est judicieux, hein, on
comme
va
le,
se le dire.
C'est un peu comme le tango ou le foxtrot. Et au final, c'est donc comme si Chubby Checker avait appelé sa chanson The Twist. Bon, c'est peut-être pas un bon exemple, mais voyez où est-ce que je veux en venir. Hein? C'est pas le titre original, c'est le style de danse qui est devenu le titre de la chanson. Et vu que c'est des producteurs français, la chanson commence son tour du monde par la France et elle entre dans tous les foyers français via une publicité de la boisson Orangina. La boisson à l'orange avec une bouteille un peu ronde. Et le produit est hier dans le vidéoclip officiel, si vous allez le voir sur YouTube. Vous remarquerez qu'il y a une des musiciennes qui brasse des bouteilles d'orangina comme si c'était des maracas. Ce qui est complètement absurde en fait, le placement de produit. Surtout que je pense que c'est un peu pétillant, donc ça devait être comme la pire
musique du monde.
C'est la publicité d'orangina. C'est en fait, il faut l'agiter parce qu'il y a de la pulpe dedans.
Oui.
C'est ça en fait.
Et donc de la France, la Lambada Manie se propage dans plus de 100 pays où il s'en vend plus de 15 millions d'exemplaires, 90 disques d'or et de platine, des centaines de récompenses à travers le monde. En 89, même à Moscou, on écoutait la Lambada. Mais il y a un petit problème, hein, la Lambada est accusée de plagiat.
Ben oui,
mais
là.
Mais pas par Marcia Ferreira.
Non!
Pas par celle de qui ils ont repiqué complètement les arrangements, mais par nos amis boliviens de Los Jarcas.
Les premiers.
Parce qu'ils avaient donné leur autorisation à Marcia Ferreira de reprendre la chanson portugaise, mais pas aux deux producteurs français qui n'avaient absolument pas demandé, qui n'ont jamais donné le crédit et qui avaient gardé tout l'argent pour eux.
Ah, et c'est eux qui ont fait la palette d'ailleurs.
Voilà. Alors, poursuite, tribunaux, jugement. En mai 1991, les frères Hermosa, qui sont de Los Jarcas, se récupèrent 6 millions de francs français en droit d'auteur. Noël 91. A dû être vraiment le fun dans la famille Hermosa. C'est mon guess. Alors, la leçon de l'histoire, si t'es pour piquer la chanson de quelqu'un, arrange-toi pour ne pas en faire un hit mondial parce qu'il risque de s'en rendre compte. Et je sais pas si j'ai encore un peu de temps. Combien? Il reste une minute.
Okay. 30 secondes.
Par contre, c'est un flop, personne ne le voit.
Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Kaoma? Oui. Ben, le groupe existe encore. Ils ont continué à tourner jusque dans les années 2000. Ils semblent pas être dissous depuis, mais la vie la plus intéressante, avec des guillemets, c'est probablement celle de la chanteuse du groupe, Madame Braz Veira. Elle a eu une vie un peu tragique suite à l'argent qu'elle a fait avec la Lambada. Mais le clou de cette vie tragique-là, c'est probablement sa mort début 2017 à l'âge de 63 ans. Sa dépouille a été découverte à bord d'un véhicule incendié à une centaine de kilomètres de Rio de Janeiro, à Saquerama, où elle tenait une petite auberge pour touristes. Et selon la police, trois hommes y auraient fait un cambriolage là-bas et elle aurait été battue, mise dans sa propre voiture. Et quand la voiture est tombée en panne, ils ont brûlé la voiture et ils l'ont laissée dedans.
Est-ce qu'on appelle
absolument
ça
tragique.
Est-ce qu'on appelle ça, mettons, le karma?
Je sais pas si c'est le karma, mais tant qu'à finir sur une aussi bonne note que je suis en train de le faire, je vais vous préciser qu'en français, Corando, ces fois, se traduit par « il est parti en pleurant ». Alors, vous penserez à tout ça en dansant la prochaine
fois. Et nous, on part en se disant bye avec le sourire. Merci, Mathieu.
Ça fait plaisir.
Bye, tout le monde.